Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end magnifique sur RMC. Alors prenez date déjà, sachez que demain nous serons en direct du Mans avec Christophe Cessieux, avec Pascal Duprat, avec Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski pour le Grand Prix MotoGP et peut-être, on l'espère, une victoire française. Pourquoi pas Fabio Quartararo. Ce sera demain à partir de 9h, donc en direct du Mans. Soyez bien présents au rendez-vous. Aujourd'hui, dans le studio RMC, confortablement installé, voici le programme. Paris en finale de la Ligue des Champions, c'était l'événement de la semaine. Ce sera la 8e finale d'un club français en C1. Le PSG est-il déjà entré dans l'histoire? Ce PSG, je vous poserai la question et je sais que vous n'êtes absolument pas d'accord. C'est le grand retour aujourd'hui de Yannick Sinner. On en parle à 10h après avoir purgé 3 mois de suspension pour dopage. L'Italien accueilli comme une rockstar chez lui à Rome. Est-ce indécent? C'est tout simple comme question, mais il va falloir répondre. Ce sera le bras de fer des GG. Et puis 11h, le multiplex de la 33e journée de Ligue 1. Ce match magnifique ce soir entre Monaco et Lyon. Lyon en crise sportivement et financièrement. Il faudrait désormais un miracle pour voir l'OL en Ligue des Champions la saison prochaine. Les comptes sont dans le rouge. Faites-vous encore confiance à John Textor. On se posera la question. Là, j'adore mes petites présentations. Les grandes gueules du sport ce matin. Une grande gueule qui, comme Luis Enrique, on le trouvait énervant en septembre, horripilant en octobre, insupportable en novembre. Mais ça, c'était avant le printemps. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Bah oui, t'as vu comme j'ai changé un peu.
Totalement.
Je suis presque à te faire des bisous.
Mais oui.
À te dire que tes sujets sont magnifiques.
Oui.
Que franchement, t'as une originalité quand même dans la. À faire, ouais, c'est franchement, oui.
Que tu m'aimes quelque part.
Oui, quelque part, oui. Peut-être enfin, pas trop. Quand même.
Pas jusque là. Ravi de te retrouver, Christophe. T'es content d'aller au Mans demain?
Je suis ravi d'aller au Mans, ouais.
Avoir on y va tous les ans
les
maintenant.
Motos, on est bien.
C'est notre petit week-end. Bah,
en plus,
deux.
Ce qui est sympa, c'est qu'on va au Mans et on vous raconte les dessous. C'est que JC, une fois par an, se met en cuisine et nous fait la bouffe. Donc ce soir, t'as prévu quoi?
Je pense qu'on va faire des pâtes au citron ce soir.
Au citron, d'accord.
Ouais, ouais. Avec une belle crème et tout ça. Je pense que tu vas te régaler.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Mange pas de la journée.
Moi, je vais aller acheter quelques petites...
Comment ça? Ah oui, pardon. Oui, mais ça, évidemment, à consommer avec modération. Une grande gueule qui, comme Luis Enrique, il se faisait un point d'honneur à ne jamais avoir de star dans son équipe. Pascal Duprat, salut Pascal.
Bonjour les amis, salut Jean-Christophe.
Pascal Duprat avec nous en studio aujourd'hui. On est ravis de t'accueillir, surtout que tu seras avec nous tout le week-end.
Oui, j'ai bien fait de venir. Bon, les pâtes le soir, je suis pas trop pour, mais bon, tu pourras me faire autre chose, s'il te plaît.
Oui.
Merci.
Mais plutôt quoi, toi, le soir?
Bah plutôt des légumes, plutôt, voilà.
Ah oui.
Ouais, tu vois un peu, je suis fit, oui. Donc un peu de légumes.
Ah non, s'il y a des légumes.
Même une salade à la limite.
D'accord, très bien. Bah écoute, je te ferai une laitue si ça te fait plaisir. Une grande gueule qui, comme Luis Enrique, il commence à toucher sa bille en français. Denis Charvet, salut Denis.
Salut.
Ça va mon Denis?
Tu sais qu'un jour je t'ai trippé.
Non.
Si.
Ah carrément.
Parce que c'est l'accumulation, tu vois, des sorties là comme ça gratuites qui à un moment donné me peuvent m'horripiler.
Ah t'ont ripilé carrément. Ouais. Et tripé, horripilé, tu sais que c'est une émission de sport. Hein. Faut pas trop de mots compliqués dans cette émission.
Mais c'est qu'il est quand même beaucoup plus méchant depuis qu'il a arrêté sa carrière de rugbyman que quand il était sur un terrain. Comme il, ouais. Quand il était sur un terrain.
Et quand tu m'as vu jouer, bah, il était sur le terrain, toi.
Je t'ai vu jouer, je t'ai pas vu souvent te bagarrer.
Ouais, je suis pas bagarreur du tout, moi. Je sais pas pourquoi tu dis ça.
Bon, c'est bien, en tout cas. Il était tellement bon.
Je t'ai remonté, t'es bien en forme, mon cher Denis, t'inquiète pas.
Fais gaffe, quand même.
De toute façon, tout ça, ce sera consigné, évidemment. Je référerai à mes supérieurs les menaces, l'intimidation. De Denis Charvet. Une grande gueule qui, comme Luis Enrique, il a enflammé le Parc des Princes. Ah bah, il a quand même été animateur dans les loges, celui-ci. Fred Le Canu, salut Fred.
Salut les amis, salut à Fred. Tous les passionnés de pâtes au citron. Vous pouvez me faire un petit doggy bag, les amis?
Mais bien sûr,
pour ceux qui n'ont pas été invités, pour ceux qui n'ont pas le privilège de venir avec vous.
Donc, moi, ils ne m'ont pas donné envie d'y aller, je te le dis tout de suite.
C'est vrai que la recette citron, est ambitieuse. La recette est ambitieuse.
Ouais, bon, pâtes au citron, c'est fait tout seul.
Mais oui, c'est quoi, fait tout seul? Enfin, quand tu les fais pour 15, Denis, dis donc.
Pourquoi vous êtes 15 ce soir?
Ben oui, au minimum.
Ah ouais. Ben on a plein de copines qui. Enfin,
ah ouais.
On n'a pas à être contente.
Oui, et la mine qui écoute aussi. Merci, Christophe, évidemment. Ravi de te retrouver. C'est vrai que toi aussi, comme Denis, tu allais en loge au Parc des Princes.
Oui, j'ai été.
Mais toi, pour travailler, toi.
J'ai travaillé, effectivement. Ah ouais. J'ai essayé d'amener un petit peu d'émotion dans ce club extraordinaire qui, rappelons-le, est en train de marquer l'histoire.
Oui, ça, c'est pour le premier débat.
Ah, pardon.
Il met déjà une première pierre dans votre jardin. On en parlera dans dans quelques instants. Alors c'est l'événement sur RMC ce week-end. Vous allez pouvoir remporter vos places pour assister à la finale de la Champions Cup à Cardiff.
Ah, je crois que tu,
on vous propose
des places pour la finale de la Ligue des Champions.
Non, mais bientôt sur RMC. Ne vous inquiétez pas. On vous propose de vivre l'expérience RMC. Le vol aller-retour Paris-Bristol, l'hôtel avec les petits déjeuners et bien sûr vos places pour assister à la finale UBB Northampton. Vous vous inscrivez dès maintenant en envoyant rugby au 732-16, rugby au 732-16. C'est vraiment un cadeau exceptionnel, donc vraiment joué, et le grand gagnant sera avec nous demain dans l'émission. Rugby au 732-16 pour remporter vos places pour la finale de la Champions Cup à Cardiff, qui sera évidemment mon cher Denis Charvet, et vous pourrez faire une photo avec Denis Charvet. On va débuter cette émission avec cette citation de Napoléon Bonaparte qui a dit un jour, le plus grand péril se trouve au moment de la victoire.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
La frappe de la
Il faut se concentrer, il faut rester humble et aller là-bas pour gagner le match.
Hakimi, Dembélé, Hakimi.
Oui, oui,
de feu, un résultat incroyable, on est en finale, on va tout faire pour gagner en finale, c'était magnifique.
Ça frappe, ça casse. Oh là là là, la claquette, la claquette, la claquette de Donnarumma.
C'est en finale et on va aller là-bas pour ça, c'est cette coupe que je pense qu'on mérite aussi.
C'est terminé, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions 2025.
Un club magnifique, on est les meilleurs au monde et cette année on va la gagner.
Rien que ça. Après 1956, 1959, 1976, 1993, 2004, 2020, un club français va disputer en 2025 la finale de la Ligue des Champions, le PSG. Vous l'avez entendu, vous le savez, s'est qualifié mercredi soir pour la plus prestigieuse des finales. Après un parcours de dingue et triant, quatre équipes de Première Ligue, Manchester City, puis Liverpool, West Ham et Arsenal depuis l'arrivée des Qataris en 2011. C'est peut-être la saison où l'on attendait le moins le PSG à ses altitudes. Samedi 31 mai, dans trois semaines, les Parisiens défieront l'Inter Milan pour la huitième finale d'un club français en Ligue des Champions. La musique qui fout les jetons est cette question. Ce PSG, avant la finale, a-t-il déjà marqué l'histoire? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Bien sûr que non.
Bien sûr que non. Pascal Duprat.
Bien sûr que oui.
Ça, j'adore parce que cet axe va encore très bien marcher. Denis Charvet.
Non.
Non. Fred Le Canu.
Oui.
Ok, j'ai deux noms de oui. Avant de vous écouter, un petit mot avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Pour lui, il parle déjà d'histoire.
C'est histoire, une soirée de grande histoire de Paris Saint-Germain. On est vraiment, je sais pas comment m'expliquer mon sentiment vraiment. On a créé quelque chose. Aussi l'histoire de la Ligue des Champions, pas seulement pour Paris Saint-Germain.
On a déjà créé l'histoire de la Ligue des Champions avec cette équipe.
Je suis content que vous soyez d'accord avec Nasser, tous les deux.
Qui, rappelons, était...
Vous avez reçu les valises ou pas encore?
Non, on est capable d'avoir une opinion complètement libre, monsieur Cessieux.
Complètement libre, sans avoir besoin de valises.
Il a travaillé au PSG, il ne va pas te dire le contraire.
Non, évidemment.
On le rappelle, une équipe extrêmement jeune, moins de 25 ans de Moyen-Âge. C'est peut-être aussi pour ça qu'il parle d'histoire, parce qu'il a cessé de le répéter. Appelez-nous, supporters parisiens, au 32-16. Ce PSG a-t-il déjà marqué l'histoire? On va commencer avec un nom, Christophe Cessieux. Pourquoi non?
Vous avez quand même, messieurs, je trouve, une définition étonnante du mot histoire. Mais peut-être avez-vous confondu l'histoire avec un petit H, l'histoire du PSG, et l'histoire avec un grand H. Et là, il y a quand même une petite différence. Parce que pour la petite histoire, je suis d'accord avec vous. Ce pari-là est en train de marquer l'histoire de son club. Bah oui, une deuxième finale Ligue des Champions, c'est magnifique. Et peut-être s'étant enfin jamais une victoire pour l'un des clubs les plus riches de la planète, il serait quand même temps de le faire avec tous les sous qui ont été mis dans sa vertue. Donc, l'histoire avec un petit H, oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais encore faut-il la remporter, cette finale. Et c'est là qu'on passerait de l'histoire avec un petit H à celle avec un grand H. Et encore, que les événements ou les équipes qui marquent vraiment l'histoire sont celles qui agissent en pionnier. Or là, est-ce que vous voyez le PSG agir en pionnier dans cette histoire? Non.
Oui, mais enfin, ouais. Tu ne peux pas résumer ça.
Non,
ramener ça quand même au fait d'être les premiers, tu vois, jamais le premier.
Mais non, mais même pas les premiers, mais je veux dire, je pense
même Denis est pas d'accord.
Non, mais là, sur ça, je suis pas d'accord.
Là, pour l'instant, on est qualifié en finale de la Ligue des Champions.
Oui, mais...
Est-ce que vous pensez que la qualification du PSG pour la Ligue des Champions est du même acabit et va emmener la France avec elle comme l'a fait Saint-Étienne en 67.
Mais regarde justement l'exemple que j'allais prendre. Saint-Étienne n'a pas gagné la finale de Ligue des Champions. Pour autant, Saint-Étienne est dans l'histoire encore aujourd'hui. Exactement. Donc le PSG versus contemporain.
Tu penses que Paris agit et emmène la France avec elle de la même manière que Saint-Étienne.
Le Paris Saint-Germain.
Rappelle-toi parce que Pascal, les autres n'étaient pas nés.
Si.
De la folie,
les poteaux carrés, dis-moi,
et de toute la France qui était mobilisée derrière le club de Saint-Étienne et de la remontée.
Oui, mais c'est notre époque, mais non, mais tu mélanges tout là. C'est
la question, c'est pas d'avance.
Il y a d'autres. Heureusement que le PSG joue pas comme
je veux. Je vous parle d'histoire, excusez-moi si vous voulez parler d'actualité. Là, vous parlez d'actualité, vous n'avez aucun recul pour dire que ça a marqué l'histoire. Arrêtez, allez faire des études d'histoire.
Tu parles d'engouement populaire, tu parles pas d'histoire.
Il a entièrement raison.
L'histoire, c'est quand tu gagnes que ça marque les esprits. Et je suis désolé, l'équipe française qui a marqué les esprits, c'est l'Olympique de Marseille en remportant le premier la Ligue des Champions. Quoi qu'on en dise et quoi que fasse Paris dans 15 jours, Paris sera jamais le second à l'avoir fait.
Voilà, okay.
C'est tout. Ce donc l'histoire,
dans ce cas-là, une fois qu'ils ont gagné,
mais
une
non,
fois,
mais non, fait,
on va lâcher la balle.
Dit ça, dans mais principe, marquer c'est l'histoire, gagné,
c'est fini.
Marquer l'histoire, arrêtez de galvauder les mots. Arrêtez de galvauder les mots.
Très bien, Christophe.
Prenez un peu de recul.
Parfait. Moi, j'ai envie d'entendre Pascal, parce que Pascal, tu répondais en disant Saint-Étienne n'a pas gagné, mais a marqué l'histoire.
Oui. Et donc il y a de l'analogie si on veut comparer les parcours des Stéphanois à l'épopée des Verts à l'époque où le football français avait du mal à exister en Europe. Donc ça a été favorable
à la Saint-Étienne. C'était pas un des quatre clubs les plus riches d'Europe à l'époque. Mais, hein.
Oui. Disons que c'était un des précurseurs et financièrement une équipe qui était costaude à l'époque, à Saint-Étienne, y compris en Europe, Christophe. Le Paris Saint-Germain contemporain, ou en tout cas cette saison, tranche avec ce qu'on a vu jusqu'alors. Aujourd'hui, la manière d'opérer du Paris Saint-Germain, le comportement des joueurs du Paris Saint-Germain, fait que, tout d'un coup, l'histoire est en marche depuis la phase de Ligue, depuis les phases de poule, où tout le monde disait que le PSG était en train d'échouer.
Mais t'as failli
et
te faire éliminer
par magie,
à 40 minutes de la fin du City.
Par magie, à partir du moment où les phases éliminatoires sont apparues, le Paris Saint-Germain s'est révélé comme une équipe, une véritable équipe, où chacun, je le vois en province, même ceux qui sont dans le sud, excepté peut-être, et c'est bien normal, les supporters marseillais, tout le monde s'accorde à dire que le Paris Saint-Germain joue très bien, et on attend tous qu'il gagne.
Mais c'est la Ligue des Champions. Tu joues très bien, tu marques l'histoire.
Le Paris Saint-Germain est réellement aujourd'hui rentré dans l'histoire parce qu'il existe en tant qu'équipe et qu'il est proche de gagner la Ligue des Champions. Il confirmera que c'est l'histoire s'il remporte le titre. Mais,
ok, c'est le parcours pour toi qui fait dire et qui fait parler d'histoire. Ok, non, Denis Charvet.
Mais je suis d'accord avec lui. C'est le titre qui fera l'histoire. Tu rentres dans l'histoire.
Oui,
mais pour aller dans le sens de Christophe, oui. Je pense qu'il y a eu de très belles histoires, de très belles épopées au PSG, mais c'est pas pour ça qu'ils sont rentrés dans l'histoire. Faut vraiment détacher les deux. Parce que c'est vrai que tu regardes en 90, moi j'étais déjà supporter au Parc, j'y allais, c'était extraordinaire, les épopées avec Ginola, Bravo, Comboiré, tout ça, ce qu'on a vécu contre Madrid, tout ça, c'était de belles histoires. Après il y a eu Ray, il y a eu Ibra, il y a eu Neymar, Messi, mais on n'a jamais marqué l'histoire, parce que le débat c'est ça, c'est marquer l'histoire.
Exactement.
Donc c'est pas la même chose. T'as jamais marqué l'histoire parce que t'as pas gagné. T'as gagné une coupe des coupes qui ne représentait absolument rien.
Et oui, mais ça pour le coup c'est un morceau
c'est comme les coupes de France,
l'histoire du football français ou l'histoire du football européen, ou l'histoire du football mondial.
Le Paris Saint-Germain aujourd'hui marque l'histoire du foot européen.
Bien sûr,
mais à l'échelle mondiale, si les clubs français sont représentatifs, il y a que le PSG et l'OM. Je suis désolé,
mais il y a bien longtemps. Puis, encore une fois, le PSG marque l'histoire. Je finirai sur le fait que le PSG aujourd'hui, tu me parles d'une équipe qui s'est miraculeusement qualifiée à la dernière minute contre City. Mais bon, c'est le sport.
Ça fait partie du parcours.
Ça fait partie du parcours.
Mais
c'est très nouveau.
Excuse-moi,
l'équipe d'aujourd'hui, avec l'état d'esprit qu'il y a, qui est extraordinaire, on le reconnaît, le collectif qu'il y a, mais c'est très nouveau. Ne me dis pas que ça date de un an, deux ans. Comment tu veux que cette équipe marque l'histoire aujourd'hui?
Depuis le début de la saison, elle a trois mois.
Pour moi, elle a trois mois, cette équipe. Donc, je comprends pas qu'on puisse parler d'histoire.
C'est la continuité du Paris Saint-Germain.
Mais après, ce qu'ils font, c'est extraordinaire, c'est génial. Moi, le bonheur qu'ils apportent à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est vrai que la France, maintenant, est derrière, puisqu'on a vu les audiences qui étaient extraordinaires. Donc, tout le monde est derrière ce PSG. Mais s'ils gagnent, oui, s'ils gagnent Inter de Milan, là, on pourra dire qu'ils marquent l'histoire.
À 10h30, on se posera la question de savoir si ce PSG peut rassembler, évidemment, au-delà de Paris et de sa banlieue et de la périphérie. Fred Le Canu.
Oui, pour répondre à Christophe par rapport à ce côté un peu Far West, nouveau et marquer l'histoire dans sa nouveauté. Je rappelle quand même que le format de la Ligue des Champions, il est nouveau, qu'il est extrêmement long, qu'il y a eu beaucoup de matchs par rapport à ce qui était par le passé. Donc cette histoire-là, elle est incroyable.
Pas pour autant plus dur. Hein,
non, c'est pas ce que je veux dire non plus. Mais ouais, là où t'as raison, c'est que justement, ils ont été mis en difficulté.
Ah, ils ont marqué l'histoire de la nouvelle formule. C'est ça que tu veux dire?
C'est quand tu parles de nouveauté.
Quand
tu parles de nouveauté, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que dans la nouveauté, il y a cette continuité de matchs et on l'a vu, ils ont été en difficulté. Là où ils marquent l'histoire, justement, c'est dans cette capacité à avoir un collectif, à se eux-mêmes se raconter
l'histoire du club, pas l'histoire.
Oui, mais c'est ça, l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en soutien d'une équipe et ça n'a pas toujours été une grande équipe. Là, aujourd'hui, il y a une équipe, un collectif, il y a une histoire qui se raconte et je vois bien qu'il y a du soutien. Comme tu l'as dit, Pascal, pas partout sur le territoire parce que la dualité, elle sera toujours là entre le sud, la capitale et ça fait partie justement de l'histoire. Mais par contre, je suis désolé, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est en train de marquer l'histoire de par sa puissance, de par le fait qu'elle peut devenir aujourd'hui une équipe qui gagne cette
Ligue des
Champions.
Elle peut devenir. C'est pas aussi par la capitale sympathique.
Mais ça, c'est autre chose, qui tranche avec le passé du PSG.
Une équipe qui a deux finales, il n'y en a pas 10 000 non plus. Hein. C'est la troisième équipe à deux finales.
S'il y a des historiens qui nous écoutent, ils doivent s'arracher les cheveux.
Là où je dois aller dans le sens de Christophe, quand tu mets autant d'argent depuis des années, je suis désolé.
Ne sois pas désolé d'aller dans le sens de Christophe.
Mais non, je suis pas désolé. Mais là où il a pas tort, c'est que quand tu mets autant d'argent, tu espères autre chose. Je suis désolé. Je ne t'espère pas qu'à un moment donné, tu te raccroches à un entraîneur qui arrive, qui tout d'un coup te met un booster dans l'équipe, dans le collectif, pour aller en finale. Parce que t'as pas gagné.
On va revenir sur les choix qui ont été faits au PSG.
Mais tu es obligé d'être content
d'avoir Pascal. Neymar, d'avoir Messi et compagnie. Ça a contribué à l'histoire.
Je te dis pas le contraire. Ça a coûté des milliards.
Et ça a coûté des milliards. S'ils les ont, ils les dépensent, ils ont raison de le faire.
Mais on n'a rien gagné pendant cette période-là.
Mais le Paris Saint-Germain est un club jeune. Qatar n'est pas là depuis si longtemps que ça. La construction des grandes équipes européennes, elle a pris du temps aussi.
Pascal, le passage de Neymar à Paris et le passage de Messi, ça a marqué l'histoire.
Oui,
C'est-à-dire que dans 100 ans, si à l'étranger, du club, c'est sa construction. Bonjour, Paris libéré, mais Paris avec Pascal Dupraz. Oui, on s'en souvient.
Oui, la construction de jour.
J'ai fait mon lacet ce matin, ça a marqué l'histoire. Mais vous galvaudez les mots, les gars.
La construction d'aujourd'hui, l'histoire du collectif d'aujourd'hui, ce sont les individualités ingérables d'hier. Aujourd'hui, la puissance du collectif, c'est parce qu'il y a eu Neymar, c'est parce qu'il y a eu des individualités comme Messi et que ça n'a pas fonctionné. C'est ça l'histoire. La grande histoire du Paris Saint-Germain.
Mais regardez un dictionnaire, on a compris. C'est la reconnaissance
à l'étranger, c'est différent de Neymar, mais si sa construction, certaine reconnaissance à l'étranger,
juste
pour le club.
Je vais prendre la main juste sur ça que tu disais, Christophe. Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, qui est à ce jour le plus grand transfert au monde de foot, qu'on le veuille ou non, je ne parle pas du passage, ça marque l'histoire. Messi, le plus grand joueur du monde avec le plus de ballons d'or signe au PSG, ça marque l'histoire. En revanche, sur la qualification du club. Ça marque l'histoire du.
Ça marque l'histoire.
Ça marque indéniablement l'histoire du club, mais ça marque aussi quand même l'histoire. Je veux dire, ce transfert de Messi au PSG.
L'histoire du foot, je te dis, Messi qui va
à la Juve ou n'importe où, ça marque l'histoire du foot.
D'avoir le meilleur joueur au monde, le meilleur joueur de l'histoire
qui signe dans un club.
Tu ne crois pas que Messi qui marque l'histoire ou Neymar qui marque l'histoire, c'est en faisant cette remontada face au Paris Saint-Germain, en remportant toute une saison? Tu ne crois pas qu'un club qui marque l'histoire, c'est le Real Madrid qui en est à 15 ou 18 titres de Ligue des Champions? Et tu ne crois pas que c'est largement au-dessus? Et que si tu mets tout dans l'histoire, du football. Alors évidemment que ce seront peut-être des alinéas, des petites lignes.
Mais en fait,
quand on regardera
la définition de football. L'histoire. Enfin,
mais oui, mais en attendant, marquer l'histoire, c'est un truc dont les gens se souviendront dans 100 ans.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Que les professeurs d'histoire du sport raconteront à leurs élèves dans 50 ans. C'est ça qui marque l'histoire.
Mais moi, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi. Je pense que le PSG, pour marquer l'histoire du foot, doit gagner cette finale. En revanche, le transfert, même si c'est pas l'objet du, mais on a dévié là-dessus. En revanche, le transfert de Neymar à ce jour, qui est le plus grand transfert au monde dans l'histoire du foot, marque l'histoire.
L'arrivée de Messi
marque l'histoire. Ça oui, mais pour la Ligue des Champions, vu qu'il y a un club français qui l'a déjà fait, pour marquer l'histoire, il faut aussi la gagner certainement. Mais justement, marquer l'histoire avant de jouer une finale, bah c'est peut-être ce qui nous a causé quelques défauts, parce que je vais vous faire un petit peu le récap des finales jouées par les clubs français, surtout jouées et souvent perdues. À tout de suite sur RMC, on vous attend au 32-16 pour ce débat, vous l'aurez compris, très animé, mais ça s'appelle les grandes gueules du sport, il est 9h28. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Fred Le Canu, Denis Charvet. Ce matin, à partir de 10h, on va ouvrir le dossier Yannick Sinner, qui fait son grand retour aujourd'hui. Nous serons en direct de Rome avec Eric Salio. Il est accueilli comme une rockstar. Pas Eric Salio, évidemment, vous en doutez, malheureusement.
Et de notre part, pas nous, Eric.
Plutôt Yannick Sinner. Est-ce indécent cet accueil comme une rockstar après avoir purgé 3 mois de suspension pour dopage? On se posera la question, donc à partir de 10h. Mais restons un instant sur le Paris Saint-Germain, c'est l'événement de la semaine. Le PSG qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Ce sera samedi 31 mai face à l'Inter Milan. Est-ce que ce PSG a déjà marqué l'histoire? On se pose la question avant la finale. Philippe est avec nous au 32-16. Bonjour Philippe.
Mais bonjour messieurs.
Ravi de t'accueillir dans cette émission, dans les grandes gueules du sport, Philippe. Alors le PSG a-t-il déjà marqué l'histoire? Tu le vois, c'est assez divisé dans le studio RMC.
Ouais. Mais moi, je pense très clairement que ils vont rentrer dans l'histoire de leur club, mais pas plus. Hein. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi ils rentreraient plus dans l'histoire que les autres clubs qui l'ont remporté déjà, et que en France, l'OM l'a déjà gagné, donc ils rentreraient pas plus dans l'histoire.
Mais dans l'histoire du foot français, est-ce que t'es d'accord? Est-ce que le PSG entrerait comme l'OM dans l'histoire du foot français en gagnant cette Ligue des Champions quand même?
Malheureusement il y a déjà l'OM qui l'a fait avant. Voilà, donc pour eux, hein.
Teddy Riner, il est pas rentré dans l'histoire, par exemple, puisqu'avant il y avait David Douillet.
C'est l'exemple que j'allais prendre, tu vois.
Ah, tu vois, comme quoi les grands esprits se rencontrent.
Ouais, je t'aime, Pascal. Oui, Philippe.
Teddy Riner, il a remporté beaucoup plus de titres que tout le monde. Mm-hmm. C'est ça qui le fait rentrer dans l'histoire.
C'est ta théorie, ça.
Ouais.
Oui, mais c'est pas mal comme argument. Je trouve qu'il est pas mal comme argument. Vas-y, je te laisse poursuivre, Philippe.
Au nombre de médailles olympiques, il y a des médailles olympiques, ils rentrent dans leur histoire parce qu'ils sont médailles d'or. Mais comme plein d'autres, finalement, ils rentrent pas dans l'histoire de leur pays.
Il faut toujours faire plus fort que celui qui est passé avant. Mais c'est ce que tu veux nous dire.
C'est différent.
C'est le sujet qu'on évoquait la semaine dernière.
Le problème, le sport collectif, c'est plus difficile de rentrer dans l'histoire. À titre individuel, Riner, quand tu gagnes individuellement, je pense que c'est plus facile de rentrer dans l'histoire. Mais quand t'as pas gagné une seule coupe, même si t'as eu des belles histoires, mais tu peux pas rentrer dans l'histoire. Pour moi, il y a que les victoires, les belles victoires ou les grandes victoires.
Alors justement, je vous donne un petit récap de ce qu'on a fait jusqu'à présent en finale européenne pour nos clubs français. Il y a eu 7 finales de C1, il n'y a eu qu'une victoire évidemment en 93 avec l'Olympique de Marseille. Il y a eu 17 finales de Coupe d'Europe. On n'en a gagné que 2 avec l'OM en 93 et dedans, et avec le Paris Saint-Germain, cette finale de la Coupe des Coupes. Est-ce que justement, le mal français, c'est de ne pas se dire, comme ce matin, qu'on est déjà entré dans l'histoire avant d'avoir joué une finale? Parce que c'est là, c'est à portée de main. Parce qu'on a souvent perdu ces finales de Coupe européenne. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, pour moi, le PSG est rentré dans l'histoire. Et je sais très bien qu'il y a encore un match à disputer et que pas certain que le Paris Saint-Germain le gagne. Pour autant, pour ma part, je considère que le Paris Saint-Germain est rentré dans l'histoire.
Mais même s'il perd en finale.
Oui, même s'il perd en finale.
Mais est-ce que c'est anecdotique de voir autant de finales perdues pour le foot français?
C'est pas anecdotique.
Est-ce que c'est parce qu'on n'était pas déjà arrivé avant d'avoir joué la finale?
Non, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la victoire, la gagne, le cut qui fait la différence, c'est compliqué en France. c'est compliqué. Et sur le foot, c'est compliqué aussi. Et,
non, mais tu parles du culte de la gagne.
Parce qu'on est un pays qui n'a pas l'expérience des finales de grandes compétitions de clubs. Cette fois, mais très disséminé. Il y a eu les deux premières fois pour Reims dans les années 50. Ensuite, ça a été Saint-Étienne les années 70. Ensuite, ça a été deux fois
c'est
Marseille.
Très peu sur le temps.
Et la deuxième fois, Marseille l'a emporté parce qu'il y a eu l'expérience. Il y a
et
eu
Paris
PSG, sa première qualification. Ils ont perdu. Là, peut-être qu'avec l'expérience et on l'a vu tout au long de ce parcours européen cette année, l'expérience se joue. Les mecs ne s'affolent plus comme à l'époque de la remontada. Et là, ils sont mûrs pour la remporter. Ouais,
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la sortie hier de Luis Enrique qui a dit pour préparer cette finale, il faut pas aller dans l'hyper enthousiasme. Et ça, c'est quelque chose.
Tu sais quoi ? Je te laisse poursuivre dans quelques instants, mais on va l'écouter justement là-dessus.
Et on écoute si tu veux bien.
On écoute et les grands esprits se rencontrent là aussi. Luis Enrique hier en conférence de presse.
Nous sommes tous prêts à Paris pour marquer l'histoire. Les supporters sont prêts parce que ce sera la deuxième finale, mais la première avec les supporters. Le PSG mérite de gagner la Ligue des Champions, mais trop d'énergie positive autour du PSG, c'est dangereux. Le problème, c'est que l'un des deux, l'Inter ou le PSG, n'y arrivera pas. Et j'espère que ce sera notre première Ligue des Champions.
Alors je voudrais... Pardonnez-moi, Luis Enrique, de vous avoir coupé. Fred, justement, je veux t'entendre là-dessus, parce que là, vous l'avez entendu, il a dit c'est dangereux d'avoir cet enthousiasme débordant autour du Paris Saint-Germain, alors que je me souviens qu'avant la demi-finale face à Arsenal, il y a eu quelques contre-performances, notamment en championnat du Paris Saint-Germain, évidemment anecdotiques, mais des contre-performances tout de même. Et il avait dit « Je sens un climat négatif autour du club ». Qu'est-ce qu'il veut, Luis Enrique ?
Non, mais moi, je l'ai trouvé hyper pertinent. J'ai trouvé ça hyper pertinent et franchement, ça m'a. Ouais, je trouve ça très pertinent parce que il a été capable de dire sans dire. C'est-à-dire, au lieu de dire, ça va être un match pas comme les autres, c'est une finale. Et on le sait, une finale, c'est différent de tous les autres matchs. La preuve en est, jusqu'à présent, on a beaucoup de mal à les gagner. Une finale, c'est différent de tout le parcours. Et au lieu de dire, voilà, ça va être différent, il va falloir se préparer de manière différente, il faut prendre le truc. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il faut pas qu'on soit dans l'hyper enthousiasme. Sous-entendu, au lieu d'amener quelque chose de négatif et la peur, il positivise le truc. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. En termes tactiques de management, j'ai trouvé ça hyper brillant.
Très bien, brillant, mais il y a deux semaines, il nous disait attention, il y a un climat trop négatif autour du club.
Il disait l'inverse, c'est assez bizarre ce que tu dis.
Depuis que le PSG gagne, version Luis Enrique, il peut dire ce qu'il veut, c'est toujours brillant ce qu'il fait. Par contre, il y a deux mois et demi, trois mois, c'était pas si évident que ça.
Fred, t'as vu, il est bluffé, il a été pris par.
Ça marche avec moi.
Ouais,
moi,
ça marche avec Fred, je trouve.
Non, mais quand t'es coach, quand tu en viens à gagner, à être célébré par la presse, par les supporters, même les supporters qui ne sont pas de ton propre club. Est-ce que ça, c'est dangereux pour un club ? C'est dangereux pour une équipe ? Là, cet enthousiasme autour du PSG, est-ce que tu achètes la théorie ?
Je ne sais pas si c'est dangereux. Par contre, là où il est extrêmement légitime, Luis Enrique, c'est qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions. Donc, il sait comment faire. Donc, on va lui faire confiance sur sa manière de manager émotionnellement son groupe et son équipe. Cela dit... Il aura du mal à convaincre tous les supporters, tous les sympathisants, tous les amoureux du football d'être pessimistes tout d'un coup pour pas nuire aux intérêts du PSG. Ça va être dur.
L'Olympique de Marseille en 93, il y avait une
effervescence
de folie, une effervescence. Tout le monde y
mais
croyait.
Mais tu l'as aujourd'hui, au PSG, avec
Tu l'as même.
Moi, je suis pas d'accord.
Mais les grands clubs savent justement avaler
ça. Gérer ça. Mais justement, il faut se nourrir
avec l'expérience.
Je pense que c'est le contraire. Il faut se nourrir de ça. C'est ça, de positiver tout cet enthousiasme. Je trouve qu'au contraire, c'est ce qui te porte quand t'es joueur. Moi, j'ai vécu ça à Toulouse. Tu sentais que tous les mecs étaient derrière toi, mais tu sentais mieux, quoi. Je sais pas, en tant que joueur. Mais
en même temps,
c'est logique qu'ils mettent certainement le frein de main. Parce
oui, qu'ils mettent en garde, tu vois.
Voilà, il doit mettre en garde. C'est ça, là, tout l'art du management.
Moi, peut-être, ça parlait d'émotionnel. Je pense qu'il n'y a que ça.
La chance et le mérite du Paris Saint-Germain, c'est que d'ici là, ils ont des matchs, notamment un, important à jouer. Et si d'aventure, je veux pas porter malheur au Rémois, mais si d'aventure il gagnait la finale de la Coupe de France, ça participerait à la bonne construction de l'histoire.
Et là, ce serait
une semaine avant.
Titre de champion de France, Coupe de France et Ligue des Champions. Là, on pourra commencer à dire.
La gestion,
ils sont qualifiés pour la finale.
Je pense que Luis Enrique,
pas encore entré dans l'histoire. Il faudrait attendre un peu, les gars.
Le plus compliqué aujourd'hui dans la gestion de Luis Enrique, c'est de pas avoir de blessés. Je pense que c'est ça. C'est pas tellement le reste. Après, c'est la communication. Quand tu vas jouer dans un match de Coupe de France, ils vont pas jouer à 50%, les joueurs. Donc t'as tout le temps un risque de blessure. C'est pas comme un match championnat où tu lèves le pied.
Tu le sais mieux que quiconque, toi, l'ancien sportif. Oui. Dès lors que tu crains la blessure, tu te blesses.
Tu peux te blesser, mais donc, bon, il a ça à gérer. Parce que c'est vrai que si tu arrives en finale avec des blessés ou des, c'est pas pareil. Tu vas avoir ton équipe type pour pouvoir affronter cette équipe d'Inter de Milan qui fait quand même très peur.
Il y a 3 semaines avant la finale de la Ligue des Champions, il y a 3 matchs pour le Paris Saint-Germain. Déplacement à Montpellier aujourd'hui avec une équipe largement remaniée et 6-7 cadres qui ont été laissés au repos. Il y aura la fin du championnat.
Pas les coiffeurs, mais les commis des coiffeurs.
Exactement. Il y aura le week-end prochain, la dernière journée de Ligue 1. Et le week-end d'après, il y aura la finale de la Coupe de France face à Reims avant de se projeter sur la finale. Le mot de la fin, Fred Le Canut.
Oui, je pense que ce côté de gestion d'émotion, c'est pas forcément pour les supporters et pour la France en général, c'est aussi pour la structure du club. Parce qu'à un moment donné, il faut être équilibré jusqu'au bout. Là, ils sont en train de faire un truc extraordinaire. Alors, l'histoire, pas l'histoire, chacun, voilà. Mais ils sont en train de faire un truc hors du commun. Et pour garder ça, là, il y a une finale hors du commun. Il faut avoir une attitude contrôlée et pas partir dans tous les sens. Je pense que ça parle aussi, ça, pour toute la structuration du Paris Saint-Germain. De dire, voilà, gardons nos émotions, soyons calmes et déterminés, ne soyons pas dans l'effervescence. Que le président préside, que l'entraîneur entraîne. On fait comme on fait d'habitude, on touche à rien. On continue comme ça.
Et là où Pascal a raison, c'est que Luis Enrique a cette expérience de préparer une finale et de la gagner.
On reparlera du Paris Saint-Germain à 10h30, savoir si la France du foot peut être derrière le PSG. Vous avez des avis évidemment différents, mais GG, ce sera à 10h30. Mais on va se retrouver dans quelques instants pour le on s'en fout pas. J'ai le Giro, ça y est, qui est parti d'Albanie, c'était hier. J'ai du Léon Marchand ou encore du Manon Fiorot, qui peut entrer dans l'histoire du MMA, avec un grand H ou petit H. Vous me direz évidemment, c'est dans quelques instants.
C'est une niçoise.
Tout de suite sur RMC. Alors, on s'en fout, attendez. On s'en fout pas.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h45, de retour dans les grandes gueules du sport. Merci de votre fidélité, toujours avec Pascal Duprat, Fred Le Canu, Denis Charvet, Christophe Cessu. À partir de 10h, on ouvre le dossier Yannick Sinner, accueilli comme une rockstar chez lui à Rome. Il fait son grand retour aujourd'hui et s'indécent justement cet accueil triomphant pour notre ami Yannick Sinner. On en a souvent parlé dans cette émission. On est prêt quasiment à passer à autre chose maintenant, à reparler de sportifs. Ce sera donc à partir de 10h et nous serons en direct de Rome à 10h45. Mais GG, vous prenez les commandes de cette émission en nous proposant un débat. Et vous avez 20 secondes maintenant pour nous attirer, pour nous appâter. Enfin, pas que nous, surtout les auditeurs qui nous écoutent.
Ouais.
Sur le compte X des Grandes Gueules du Sport, vous allez voter pour votre débat préféré. Denis, tu veux parler de quoi ?
Moi, je vais parler de ce que va toucher le PSG en droit de TV. Par rapport à la Ligue des Champions, ça va être colossal. Je crois que c'est 140 ou 150 millions.
140 millions, oui.
140 millions. Et je trouve que c'est indécent. Mais pas indécent dans le sens où, ben, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu vois aujourd'hui l'état du football français, la crise dans laquelle on est en Ligue 1, je me demande si le PSG n'aurait pas donné un petit peu de ses droits à
l'ensemble. Des 140 millions, tu penses qu'ils vont les donner ?
Mais non, ils vont pas les donner. Mais je dis que c'est tellement disproportionné que ça me fait mal au cœur pour les clubs français.
Ok, c'est le pactole récupéré par le Paris Saint-Germain pour son parcours en Ligue des Champions. Domestique. 140 millions d'euros, très bien. Tu veux donc le Paris Saint-Germain soit le Parti Socialiste. Voilà, on a bien compris. Je vois que tu fais beaucoup l'émission avec Pierre Dorian.
Vincent doit être très content de ta position.
Non, je fais l'émission avec Pierre Dorian, mais c'est Pierre Dorian qui m'a donné
l'idée, bien sûr. Vous allez voter évidemment pour Denis, ça vous intéresse.
Votez pas trop pour moi parce que j'ai pas du tout envie de faire ce débat.
Alors c'est.
Je m'aperçois que c'est une connerie.
Tu t'es fait manipuler. Tu t'es fait manipuler.
Manipuler. Mais non, mais qui les garde?
Alors, attends, c'est la première fois qu'on assiste à un suicide en direct d'une contre-attaque.
Mais du coup, il se rend compte de ce qu'il est en train de dire.
C'est une contre-attaque.
Non, mais c'est JC qui m'a touché en plein cœur.
Alors, tu sais quoi? On va la retirer des propositions.
Tu peux en faire une autre. Non, parce que je veux l'entendre défendre cette théorie communiste. J'adore.
Et fumeuse. Fred Le Canut, tu proposes quoi?
Oui, je propose de voter pour Denis. Je pense que c'est intéressant.
Non. Tu sais quoi, moi je vous propose de rien. Je vais suivre.
Je propose de parler de qui Kylian Mbappé, la notoriété de Mbappé est-elle en train de tuer le footballeur? On fait un peu de philo ce matin, on confond et on compare verbe être et verbe avoir. Est-ce que être footballeur, c'est obligatoirement avoir de la notoriété? Est-ce qu'on n'est pas piégé quand on est aujourd'hui footballeur à ce niveau-là dans un système
qui vous étrille?
Est-ce que finalement être capitaine, c'est forcément avoir un brassard? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que être joueur, ça implique d'avoir une carrière?
Non, mais c'est pas maintenant que tu dois développer.
Ouais, mais je suis parti. C'est d'avoir, mais j'en ai plein, j'en ai des heures. C'est d'avoir des investissements. Bref, votez pour moi.
Oui, voilà. Il m'a perdu. Trop compliqué pour les grandes gueules du sport.
Il a perdu tout le monde là.
Non, moi je vais. On va dire une idée qui colle à l'actu, parce que ce soir au Stade Vélodrome, il y a un fameux RCT contre le Stade Toulousain. Ouais, et après la défaite. Du Stade Toulousain,
je vais t'expliquer un truc
en Champions Cup contre l'UBB. Eh bien, moi, je me demande si, avec tous ces blessés, alors que certains ici disaient que c'était pas grave, que c'était l'équipe au-dessus du lot, je me demande si le Stade Toulousain n'est pas en passe de tout perdre. On verra ça plus tard.
Très bonne question.
Alors, je pense que tu t'es trompé parce qu'aujourd'hui, on est dans les grandes gueules du foot quand même. Faut pas l'oublier.
Ah oui.
Et même un peu dans les grandes gueules du PSG. Donc, si tu veux gagner, il faut faire un débat PSG.
Oui, je l'avais bien compris.
Du coup, j'ai fait un débat. PSG, j'ai décidé de vous parler de la mue totale, la mue totale de Luis Enrique, qui est passé d'un vilain petit bonhomme qui était arrogant, qui était insupportable, qui envoyait bouler les journalistes, qui était affreux, à un homme charmant,
qui parle français,
qui répond en français aux interviews, qui va faire la bise au présentateur de Canal. Ce mec-là a changé du tout au tout. Est-ce que c'est de lui-même, ou est-ce que c'est une campagne de communication? J'en sais rien.
N'est-ce pas ton regard qui a changé sur lui?
Tu l'expliqueras tout à l'heure, mais bon, comme on verra, je donnerai quand même des exemples.
Christophe,
Tu
donneras rien, tu ne gagneras pas.
D'accord, ok.
Donc tu
ne gagnerais pas.
Très bonne proposition. Je sais que tu as tourné ta veste sur Luis Enrique. Voilà. Tu veux en parler ce matin. C'est à 10h45. Vous allez voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Mais par pitié, ne votez pas pour Denis Charvet.
Non,
si allez-y. S'il vous plaît. Allez, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est Manon Fiorot. Pour l'histoire en MMA, est-ce que vous avez envie que je développe cette actualité? On s'en fout pas. Denis Charvet.
Non, je m'en fous pas.
Ok. Fred Le Canut.
On s'en fout surtout pas.
Pascal Dupraz.
Je ne m'en fous pas.
Ok. Christophe Cessieux.
Moi, je m'en fous pas parce qu'elle est niçoise. Après, je connais rien en MMA, mais je vais t'écouter religieusement.
Je comprends. En tant que niçois, ça t'honore. C'est l'événement la nuit prochaine sur RMC Sport 1 aux alentours de 4h du matin. Manon Fiorot peut entrer dans l'histoire en devenant la première française, homme, femme confondue, à devenir championne incontournable. Contesté à l'UFC, la plus grande organisation de MMA, en cas de victoire contre Valentina Shevchenko à Montréal. Donc, cette nuit, la niçoise entrerait au panthéon de l'histoire. On reparle l'histoire du sport français. Je vous propose de l'écouter avant son combat.
Je pense que ça peut être la seule, mais après, je suis sûre de moi, en fait. Voilà, ça va être ma seule chance et je vais la saisir. Ça va être, un des plus gros combats du MMA français. Je pense clairement que je suis une menace pour son héritage. Valentina, c'est peut-être la meilleure 57 de l'histoire, mais toutes les histoires ont une fin.
57 kilos, évidemment. Alors avant Manon Fiorot, il y avait Cyril Gane, souvenez-vous, qui avait été le seul combattant français à avoir eu une chance de titre, malheureusement perdue. On en avait parlé
Elle a vraiment une chance.
Elle ne part pas favorite, mais elle a vraiment une chance pour le coup. D'ailleurs, elle a plus de chances que Cyril Gane de gagner à l'époque. Fred Le Canut.
Oui, il faut absolument en parler parce que vous avez vu, elle était posée dans son interview. Elle n'a pas été dans le trash talk, elle n'a pas été dans la démesure. Et moi, je trouve que c'est ça qui est important aussi à relever ce matin. C'est on peut parler de MMA sans être forcément dans ce côté spectaculaire qui me convient pas toujours.
Trash talking.
Ouais, voilà, toujours de faire de l'excès pour pouvoir mettre un petit peu de caméra.
En même temps, c'est leur culture.
Oui,
c'est pas empêcher ça non plus.
Non. Mais justement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parler de sa performance à venir parce qu'elle est basée sur une grande dimension sportive. C'est une jeune femme qui a des grosses bases de karaté et elle a exploité ça pour aujourd'hui être tout à fait capable de gagner. Donc il y a une grande dimension sportive à aller voir, prendre un angle un peu différent que tout le temps justement ce côté spectacle. Il y a du vrai sport, il y a des vrais enjeux. En face adversaire, elle est redoutable. Ça va être un vrai combat et donc ouais, franchement, faut le regarder, faut suivre. Et puis un moment d'histoire, comme Christophe les aime, parce que pour l'instant jamais une Française ou un Français n'a remporté ce titre.
Exactement.
Et donc entrerait dans l'histoire pour de bon.
Vous trois qui serez qui seraient ensemble dans une belle maison. Vous allez vous lever pour regarder le.
Ce soir au Mans, ce sera à 4h du matin. Je pense que j'irai, je toquerai à la porte de Pascal et de Christophe pour leur dire il y a Manon Fureau qui va combattre.
Je regarde sur ma tablette.
On rentre de boîte vers 3h30, Pascal, tu vas voir.
Manon Fureau, en tout cas, c'est sur RMC Sport 1. C'est l'événement, évidemment, la nuit prochaine. Ce sera dans la nuit. Donc, il faut mettre les réveils, les copains. Et on en reparlera demain matin, évidemment. Et on espère que notre Française va s'imposer dans ce combat de MMA. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le premier Giro dans la carrière de David Gaudu. On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Ok, Pascal.
Je ne m'en fous pas.
Oui, Fred Le Canu.
Je m'en fous.
Je m'en fous pas, mais je laisse Christophe.
Alors, la 108e édition du Giro est partie hier d'Albanie. David Gaudu s'apprête donc à arpenter ses routes du Giro pour la première fois de sa carrière. Le seul grand tour, d'ailleurs, auquel il n'a pas participé. Lui qui compte 7 départs sur le Tour de France, 2 sur la Vuelta. Et sur ce Giro 2025, on a envie d'entendre Christophe, parce qu'on veut savoir si le plateau est assez relevé, parce que David Gaudu, il a des ambitions, il vise pourquoi pas le podium, même si on sait qu'il a connu une préparation tronquée par des chutes, mais le Breton a de l'ambition. Je rappelle juste comme information qu'hier il y a eu la première étape remportée par Mats Pedersen devant Wout van Aert. C'est donc le Danois qui s'empare du premier maillot rose de cette nouvelle édition. David Gaudu, au regard du plateau, Christophe, il a ses chances
de monter sur le podium?
Oui.
Il faudrait vraiment qu'il y ait des circonstances incroyables. Et puis, il faut savoir que David, comme tous les ans, a été frappé par la malchance. Au mois de mars, il a quand même chuté 4 fois en 10 jours. 4 fois en 10 jours. Et a fini par se casser la main. Et donc c'est mi-mars. Mi-mars, ça veut dire arrêter, ça veut dire rééducation, réathlétisation. Il a repris la course sur le Tour de Romandie il y a quelques jours. Il a terminé 30e. Là, il va essayer de faire ce qu'il peut, de monter petit à petit en puissance dans les semaines. Mais bon, moi, ça fait un moment que j'ai abandonné l'histoire et l'idée.
Il croit plus
de le voir sur un podium d'un grand tour. Alors sur le Tour d'Italie, Yannick Vingegaard, Yannick Evenepoel, Yannick Pogacar, je me dis qu'il y a peut-être une chance, mais enfin il y a quand même Roglic, Ayuso, Carapaz et tous les autres. Donc
un top 10, on est déjà content.
S'il était arrivé plein badin, je pense qu'il aurait pu avoir quelque chose. Il fait 6e de la dernière Vuelta où il est arrivé en forme. Mais là, c'est encore une fois, je veux dire, le mec, il n'arrive pas à tenir sur son vélo. Il tombe tout le temps. Il est frappé par la poisse. Si au bout d'un moment, il n'arrive pas à ne pas tomber, il aura du mal quand même à faire les résultats.
J'ai une solution, mais je ne sais pas si c'est mis en place par la groupe. Mais FDJ, les petites roulettes, là.
Les roulettes derrière. Et heureusement qu'il ne t'entend pas, parce que ça fout la trouille, ce que tu dis sur lui ce matin. Non, moi, je pense qu'il peut, voilà. Et je pense qu'il peut être. Il peut bien figurer, en tout cas, tu m'arrêtes.
Mais sur quel argument, Pascal, c'est juste.
Sur sa classe.
C'est juste le du temps qui.
Parce que je pense que c'est le seul coureur français capable de bien figurer sur les courses à étapes. Sur les grands tours, voilà. Donc, je me dis que si une longue séquence sans blessure, et peut-être que cet arrêt forcé l'a peut-être asséréné. J'en sais rien. On est en début de saison. Je connais pas assez peu les arcanes du vélo et de la préparation. Mais toujours est-il que sur son potentiel, c'est un des seuls coureurs français
aujourd'hui, oui, d'exister, mais est-ce que,
compris sur le Giro, alors, comme tu l'as bien souligné, que ça semble ouvert parce qu'il n'y a pas l'épouvantail et c'est lieutenant.
Ok, bon, on reparlera durant ces 3 semaines du Giro et on suivra les performances de David Gaudu. Et à noter le dernier tour dans sa carrière de Romain Bardet. On en parlera également dans cette émission. On va se retrouver dans quelques instants pour prendre la direction de Rome, pas forcément pour vous parler du nouveau pape Léon XIV, quoique si vous voulez en parler on peut aussi dans cette émission, mais pour parler d'une autre star à Rome, c'est Yannick Sinner. À tout de suite sur RMC.
Le pape du tennis italien.
Le pape du tennis italien, ouais. Exactement. Bravo Christophe, on en parle dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.